Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
bonjour galérienne, galérien, bonjour camarades et amis. Eh bien, soleil et nuages en ce 5 février sur Marseille. Soleil et beaucoup de nuages dans l'actualité. Bon, on commence à s'y faire, hélas, mais enfin, tout de même, il y a vraiment des choses menaçantes. D'abord, je vais ouvrir sur un tract que nous avons tous sur nos bureaux aujourd'hui à la Friche. Appel à mobilisation générale des travailleuses et travailleurs de la culture. Ben oui, ça y est, il faut faire des économies. Donc le premier secteur visé pour faire des économies, c'est la culture. Vous savez bien, ce truc qui ne sert à rien, lire ne sert à rien, sortir ne sert à rien. Aller au cinéma, aller au théâtre, rencontrer des auteurs et des autrices, tout ça, c'est stupide, ça fait penser, et on ne sait jamais, faire penser et penser tout court, ça peut faire des révolutionnaires. Donc vivement qu'on supprime tous ces gens-là, qu'ils aillent, je ne sais pas quoi moi, balayer, faire des murs, monter. Ah oui, non, excusez-moi, le secteur du bâtiment est en berne aussi, donc on ne va pas envoyer les gens de la culture construire des maisons, puisqu'il n'y a pas de maisons à construire. Bon, enfin, écoutez, je ne sais pas ce qu'on ira faire quand on sortira des emplois de la culture, mais en tout cas, à Marseille, pour défendre justement et organiser la défense de la culture, il y a une grande assemblée générale à la Friche de la Belle de Mai, jeudi 6 février à 18h. Donc jeudi 6 février à 18h à Marseille, et partout, défense de la culture au mois de février, au mois de mars. Au mois de mars, il y aura aussi la journée de lutte internationale pour les droits des femmes. Bref, on a encore du pain sur la planche. Mais enfin, j'avais décidé de vous faire rire quand même, enfin si on peut dire, avec la dernière de Donald Trump, parce que Donald Trump veut faire régler par les États-Unis et en direct le problème de Gaza. Le régler par exemple par une administration directe des États-Unis. Donc on n'est pas à un délire près, eh bien il veut faire de Gaza la Côte d'Azur de la Méditerranée orientale. Ben voyons. Le monde selon Trump, les machines à sous du Groenland et les casinos de Gaza. Vous savez, c'est histoire un peu de changer. Tout ça sera du dernier chic. Il n'y aura vraiment plus que les ploucs qui iront à Las Vegas. Et sinon, on essaiera d'aller se distraire ailleurs. Alors attention quand même, hein, planquons-nous à Marseille. Si jamais ils se prenaient d'amour pour les stacks, ils viendraient peut-être nous occuper aussi. Enfin bon. Excusez-moi, c'était mon petit délire du matin, mercredi 5 février. Il y a des moments où il vaut mieux rire que trembler. Et avec un pareil guignol aux manettes d'une grande puissance comme les États-Unis, en effet, je disais, il ne faut pas trop se faire remarquer, sinon il va aussi se mettre en tête de venir régler les problèmes de Marseille. Pourvu qu'il n'aille pas voir la pivoleuse. Ben oui, parce que la pivoleuse, c'est quand même complètement amoral. Hein, le dernier film de notre cher Robert Guédiguian. C'est bien pour tomber amoureux de l'Estac, et puis c'est bien pour montrer que, on va sur nos écrans et ailleurs voir une petite fable contemporaine, un conte au plus près de la vie des gens qui nous entourent, et aussi une histoire qui essaye de remettre un peu à l'endroit un monde qui, évidemment, marche sur la tête. Alors, on va laisser Donald Trump et ses trumperies, mais dans le même esprit que Robert Guédiguian, que la pivoleuse, que la remise à l'endroit d'un monde à l'envers. Eh bien, j'ai décidé finalement de consacrer l'émission d'aujourd'hui aux fous qui sont aussi des sages, ou aux fous qui sont quelquefois des sages, ou à ceux qui sont des fous et des sages à la fois. Enfin bon, bref, c'est un grand thème. Les histoires de fous que j'ai toujours beaucoup appréciées. Il y a eu, à la fin de l'année 2024 et au début de l'année 2025, une grande exposition au musée du Louvre qui s'appelait, je crois, Histoire de fous. Enfin, en tout cas, autour du fou, avec toutes les thématiques du fou du Moyen-Âge, du fou de la Renaissance, des fous contemporains et des illustrations merveilleuses, puisque, par exemple, je ne sais pas, bien sûr, avec Shakespeare, on a des fous de théâtre absolument merveilleux. On a cette volonté, justement, de vivre un autre monde, hein, the world upside down, comme disait le grand Shakespeare, à l'occasion du carnaval ou à l'occasion, justement, des manifestations des fous. Bah, on n'en est pas si loin, là, on arrive à février-mars aussi, les périodes de carême et de carnaval, avec en Provence un certain nombre de traditions où d'un seul coup on se met à avoir tous les droits. Ah oui, oui, c'est dangereux d'avoir tous les droits quand on est décidé quelquefois à bien des choses intéressantes. Mais bon, voilà, ça existe encore. Alors justement, gardons nos cultures traditionnelles ou nos cultures contemporaines. Soyons actifs et lisons pour aujourd'hui. Un livre qui est paru chez Actes Sud Junior, eh bien oui, c'est un album pour les jeunes. Un album pour les jeunes de Eglal Herrera qui est illustré par... Ah oui, mais si Sébastien, j'avais plus son prénom. Sébastien Mourin, avec de très jolies illustrations un peu naïves sur l'Orient et le monde oriental, mais justement, la naïveté et la vérité ne sont pas si loin l'une de l'autre de temps en temps. Donc, le livre de Eglal Herrera et Sébastien Mourin, c'est « L'ombre du palmier » et c'est édité par Actes Sud Junior, je vous l'ai dit. Actes Sud, qui est aussi une maison d'édition méditerranéenne, on pourrait dire, puisqu'elle est installée à Arles, et qui a connu des bons et des mauvais jours. Je ne sais pas trop où ils en sont, Actes Sud, ils ont été très bien, j'ai eu l'impression qu'ils l'étaient un peu moins. Enfin, vous me tiendrez au courant si vous avez des nouvelles d'Actes Sud. Enfin, dans tous les cas, ils sont à Arles, c'est déjà ça de prix. Alors, on commence... en vous expliquant donc dans l'ombre du figuier, non, l'ombre du palmier, c'est pas mal non plus l'ombre du figuier. Donc dans l'ombre du palmier, on vous explique que bien des auteurs arabes classiques signalent la présence à Bassora, ce qui est maintenant en Irak, vers le milieu du 8e siècle, d'un dénommé Dujen ibn Thabit, plus connu sous le sobriquet de Juha ou Guha ou Goa. Enfin, de toute façon, moi, je n'ai pas l'accent, mais c'est les accents traditionnels locaux, pour désigner cet homme au cœur simple et aux mœurs douces qui appartenait à la tribu des Fazara, qui fréquentait les cercles soufis et possédait un bon petit bagage littéraire. Ce qui n'empêchait pas ses voisins de le taquiner, ni les joyeux lurons de la ville de se gausser de sa naïveté en racontant à son propos toutes sortes d'histoires drôles. Certaines vantaient par dérision la ruse de Joa et son esprit de répartie, d'autres raillaient carrément sa candeur, voire sa sottise. Si bien que le brave homme, peu après sa mort, devint un personnage littéraire, assez ambigu mais universel. Un fou qui dit la vérité, un fou plutôt sage. Au Xe siècle, un ouvrage lui a été consacré et désormais on mettra sur son compte aussi bien des facéties nouvellement forgées que des propos attribués naguère à d'autres personnages comiques. Or, les histoires drôles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, il n'y en a pas tant que ça, mais quand on en a des intéressantes, elles ne cessent de voyager. Et donc, elles gardent la même trame, avec des protagonistes qui changent de nom, de langue, de nationalité, mais souvent, les histoires sont les mêmes. Les histoires de Juha, on les retrouve par exemple en Turquie, on les retrouve racontées comme étant celles d'un Anatolien qui aurait été Nasser Eddin Hoxha. Et celui-ci, il aurait vécu plus de 150 ans, du XIIIe au XVe siècle. On raconte qu'il avait connu à la fois Gengis Khan et Tamerlan. Et le plus amusant, c'est qu'au XIXe siècle, quand les Arabes ont découvert Nasser Eddin, finalement, ils l'ont appelé à nouveau Juha, et ils ont traduit du turc des anecdotes que les Turcs, quelques siècles auparavant, avaient traduites de l'arabe. Bref, nous allons revenir sur les aventures ou les anecdotes de Juha ou de Goha ou de Guha ou de Jha, sachant quand même que dans les recueils arabes, il y a plus de 400 à 500 historiettes à propos de ce personnage. Et comme ce personnage non plus n'a pas dit son dernier mot, on peut le faire ressusciter un petit peu où on veut. Et dans le recueil que nous avons aux mains, il est ressuscité en Égypte. C'est sûr, il y avait séjourné, puisqu'il venait d'Irak et qu'il avait beaucoup voyagé dans le monde méditerranéen. En tout cas, Juha, dans notre recueil, c'est donc Juha l'Égyptien. Il n'a rien perdu, ni de sa bonhomie, ni de son humour, qui le font toujours si bien ressentir par la population. Première histoire, donc, de Juha.
On n'en finit pas de parler de lui. Sur les places publiques, dans les jardins, à l'ombre des flamboyants et des baobabs, et les soirs d'hiver, autour du kanoun aux braises incandescentes, petits et grands retracent par le menu les péripéties de son extraordinaire existence. De génération en génération, on relate ses faits et gestes. On se rappelle ses traits d'esprit et ses comportements toujours surprenants. Car cet homme n'agissait jamais comme les autres et se trouvait toujours là où on ne l'attendait pas, parcourant l'Arabie tel un feu follet, aussitôt arrivé, aussitôt disparu, soupant chez les rois, dormant avec les miséreux. Il savait comme personne se sortir de situations difficiles et résoudre les énigmes les plus compliquées. C'était un homme malin et plein de ruses, un fou, disent les uns. C'était un naïf au cœur pur, un doux rêveur, disent les autres. C'était un sage, affirment d'autres encore. On l'appelle Nasr Eddin Hoxha chez les Turcs, Ga au Maroc et dans les pays voisins, Goa en Égypte. Ici, nous l'appellerons Goa parce que l'Égypte nous est chère et que c'est là, dit-on, qu'il a connu ses plus incroyables aventures. Venant de Bagdad, Goa était depuis peu en terre égyptienne. Je vous lis là l'ombre du palmier. Il se trouvait encore à quelques jours de marche d'El Kaïra, la capitale aux mille minarets. C'était l'été. Autour de lui, le désert s'étendait sec et brûlant, une vraie fournaise. À quelques centaines de mètres, il avisa des maisons en terre regroupées autour d'une palmeraie. Il songea. J'y trouverai sûrement de quoi étancher ma soif, et aussi quelques dattes bien mûres tombées de l'arbre qui suffiront à mon déjeuner. Il rassembla ses dernières forces, car il était épuisé par plusieurs jours de marche sous une chaleur torride, et il se dirigea vers l'oasis. La palmeraie était accueillante. Goa put effectivement y boire de grandes lampées d'eau fraîche et déguster une poignée de dattes aussi douces que le miel. Il s'affala ensuite contre un arbre, la fatigue le terrassa et il s'endormit comme un enfant. À peine le sommeil l'avait-il pris, que Goa fut brutalement réveillé par deux énormes mains qui l'empoignaient et l'arrachaient du sol. Il entendit au-dessus de lui un grognement effrayant de bête féroce. Puis, les mains le lâchèrent et il retomba lourdement par terre. « Misérable, qui donc t'a autorisé à t'installer à l'ombre de mon ombre ?» hurlait un terrible colosse. « Canaille, usurpateur, voilà une faute impardonnable, un crime dont tu répondras de ta vie. » Goa était interloqué. Quel crime avait-il bien pu commettre? L'ombre des palmiers n'appartient-elle pas à tout le monde ? Il en avait la parole coupée et regardait bouche bée le colosse défiguré par la rage et la colère. Celui-ci poursuivit. « Si tu es un homme d'honneur, ô étranger, et si tu n'es pas un poltron, viens ici même au coucher du soleil te mesurer à moi dans un duel au sabre et laver l'injure insigne que tu viens de me faire. » « Et que le meilleur gagne !» ajouta le colosse en éclatant d'un rire méprisant. Et il s'en alla. Il faut dire que Goa n'était pas ce qu'on appelle un athlète. Il était plutôt petit, mince et gracile, même s'il se dégageait de lui une certaine énergie. « Ce combat est un suicide !» murmurait autour de lui une foule consternée qui était accourue au cri du colosse. Et de fait, la lutte était inégale. Goa n'avait aucune chance de sortir vivant du duel. On lui expliqua que le géant à la voix tonitruante s'appelait Hassan Hassanein et qu'il était le chef de l'oasis. Il y régnait en maître absolu. Le palmier sous lequel Goa s'était endormi était la place habituelle où Hassan aimait faire sa sieste. Cette place lui était réservée et personne ne s'aventurait à l'occuper, ne serait-ce qu'un court instant. « Hassan est colérique et emporté, mais ce n'est pas un méchant homme, disait-on de toutes parts. Va te jeter à ses pieds et implorer sa grâce. Il est certain qu'il te pardonnera. Le duel n'aura pas lieu et tu resteras en vie. » Goa refusa tout net. Il tenait à sa dignité et il déclara haut et fort qu'il ne s'abaisserait pas à demander pardon pour une faute qu'il n'avait pas commise. Autour de lui, on insista. On le supplia pour sa sauvegarde personnelle de renoncer à ce duel. Personne n'égalait Hassan Hassanein dans l'art de maintenir du maniement du sabre, pas même les grands guerriers de El Kaïra, pas même les membres de la garde rapprochée du calife à Bagdad. Goa refusa encore. C'était un obstiné. C'était là un trait de son caractère sur lequel tout le monde s'accordait. « Tu es entêté comme une mule, lui dirent agacés les habitants de l'oasis, et cela va te coûter la vie. »« Mektoub, c'est écrit, répliqua Goa avec philosophie. Il est inutile de s'opposer au destin, il vous rattrape toujours. » La journée passa, et à l'étonnement de tous, Goa se montra particulièrement calme et serein. Il mangea frugalement, but du thé vert et de l'eau fraîche, et prit quelques repos chez le forgeron de l'oasis. « Au moins, sais-tu te battre ? » lui demanda-t-il. « Non, répondit Goa, je n'ai jamais tenu un sabre de ma vie. »« Cet homme est fou, » murmura consterné le forgeron, « ou bien il ne tient pas à la vie et désire en finir ce soir même. » Une heure avant le coucher du soleil, Goa demanda à son hôte de lui prêter un sabre et de lui montrer les gestes du salut qui précèdent le combat. Il regarda avec attention le forgeron exécuter le court balai rituel auquel les guerriers doivent se livrer avant de s'affronter. Car le duel au sabre est un art noble avec ses codes et ses lois. Puis, on vit Goa se retirer derrière un groupe de palmiers, poser le sabre à côté de lui et rester ainsi à fixer la ligne d'horizon du désert jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les dunes. À l'heure dite, très précisément, Goa était au rendez-vous sous le palmier de Hassan Hassanein. Celui-ci arriva avec une bonne demi-heure de retard, ignorant sans doute que l'exactitude est en Égypte comme ailleurs la politesse des rois. Il toisa Goa du haut de sa gigantesque taille. Celui-ci était silencieux, montrant un visage impassible où rien ne venait trahir une quelconque émotion, le moindre sentiment de peur ou de crainte. Les deux hommes se faisaient face. Autour d'eux, tous les habitants de la palmeraie restaient immobiles, figés comme des statues. Hassan Hassanein saisit son sabre et salua son adversaire suivant les règles. Puis, ce fut le tour de Goa d'effectuer le salut au sabre. Il le fit. Il le fit avec une autorité incomparable, une telle aisance et une telle grâce que l'on vit, chose inouïe et incroyable, le grand Hassan Hassanein tomber à genoux, enfouir son visage dans la poussière. « Pitié, maître, murmura-t-il d'une voix tremblante, épargne-moi. Comment pouvais-je deviner que tu es un guerrier d'une envergure peu commune et que tu possèdes une façon si parfaite l'art du combat du sabre ? Pardonne mon ignorance et laisse-moi la vie sauve par Allah le Très-Haut. Sois miséricordieux et renonce à ce duel. Je resterai ton débiteur et ton esclave jusqu'à ma dernière heure.
Alors vous voyez, finalement, la maîtrise de la culture, la maîtrise de la chorégraphie, la maîtrise de l'art de faire sien, finalement, ou faire sienne une technique qu'on a rencontrée quelques minutes avec un forgeron. Et le forgeron, bien sûr, c'est toujours un maître dans l'Afrique, on le sait. Ben voilà, ça a sauvé la vie de notre Goa. Et alors ?
On imagine aisément la stupéfaction des habitants de l'oasis. Nul doute, ce Goa à l'aspect si fragile était un guerrier accompli. Il devait posséder plus d'une botte secrète et si Hassan Hassanein ne s'y était pas trompé, seul le ferronnier et vous qui lisez cette histoire savez qu'une heure avant le duel, Goa ignorait tout du maniement du sabre. Bien entendu, Goa qui tenait à la vie se montra magnanime et laissa Hassan Hassanein aller en paix. Cette nuit-là, Goa dormit d'un sommeil agité de terribles cauchemars et le matin, il avait le corps endolori de courbatures tant il avait eu peur. Car il était fait, comme nous, tous, de plus de fragilité que de force, de plus de faiblesse que de courage. Goa ne s'attarda pas dans l'oasis et dès l'aube, il reprit sa route vers El Kaira. Il marcha d'un bon pas sans s'arrêter de toute la journée. Et le soir, il était en vue de Kalaa, une ville fortifiée qui subissait le joug du terrible tyran Mourad.
Alors, on va s'arrêter là quelques minutes, enfin non, quelques secondes, pour parler quand même des illustrations de Sébastien Mourin, parce que, évidemment, vous avez seulement les petites histoires. Nous, on a les illustrations. Et les illustrations, elles sont très jolies. Elles nous renvoient à, comment pourrait-on dire, à un Orient, de miniatures. Avec des petites villes aux remparts crénelés, avec évidemment des palmiers et aussi des coupoles qui nous resituent à la fois en Égypte, en effet, mais aussi dans les autres pays de la Méditerranée orientale. Alors, pour remplacer les illustrations, on va faire appel à la musique. Je pense qu'on va essayer de se faire deux petites pauses musicales aujourd'hui. On va écouter de l'oud, plutôt iranien d'origine, mais qui a voyagé comme Goa. Et donc de l'oud pour nous évoquer justement cet Orient quelquefois un peu légendaire. Ah oui, j'ai pas dit que c'était Sonia la technique aujourd'hui. Donc merci Sonia. voilà, un petit peu de musique de oud. Et ça, c'est pour traverser le désert, c'est pour reprendre la marche vers El Kaira. Donc, avant d'arriver au Caire, en effet, notre Goa arrive dans ses banlieues. Et dès qu'il arrive à Kalahar, on lui dit que cette ville donc subit le joug du terrible tyran Mourad. Et à propos de Mourad, on va avoir une de ces fabulettes, dirais-je, dans lesquelles finalement Garo fait démonstration, non Goha, fait démonstration de sa sagesse et fait démonstration donc de je sais pas comment on peut dire de son jeu avec à la fois les choses, les êtres, et peut non seulement, comme dans l'histoire précédente, faire croire qu'il joue très bien du sabre, mais aussi résoudre des énigmes qu'on lui propose. Mourad était un despote qui, comme tous les despotes, s'ennuyait souvent et ne savait plus quel caprice, quelle cruauté inventer pour se divertir et tromper sa mélancolie. Ce jour-là, il avait imaginé d'interdire l'entrée de sa ville et avait ordonné à ses gardes d'exiger de chaque voyageur qu'il prononce une phrase incontestable, une affirmation juste en tout point, afin de pouvoir entrer, sinon il serait décapité. Ce fut un jour noir, un vrai carnage. Pas un seul homme ni une seule femme souhaitant séjourner à Kalahar ne sortit indemne de l'aventure. Heureusement, certains refusèrent et repartirent. Derrière les meurtrières, Mourad regardait avec délectation les voyageurs s'empêtrer dans leurs phrases, puis il assistait au comble du ravissement à leur immédiate exécution. Goa se présenta à son tour aux portes de la citadelle. Le soir tombait et on entendait à travers les murs épais les gémissements des habitants de Kalahar qui pleuraient les voyageurs assassinés par leur maître. Lorsque Goa compris de quoi il retournait, c'était déjà trop tard. Deux gardes l'encadraient et il le sommait d'exprimer une pensée que rien ne pouvait démentir. Il marqua un long temps avant de répondre. « J'aurai la tête coupée » prononça-t-il enfin à haute et intelligible voix. Les gardes n'en revenaient pas et le tyran Mourad non plus. Il était piégé. S'il faisait décapiter Goa, il lui donnait raison, c'était alors la preuve que son affirmation était juste et que par conséquent, il devait avoir la vie sauve. Ce tyran fulminait de dépit et finalement, à contre-cœur, laissa Goa entrer en ville. Mais il ne le tint pas quitte pour autant. Goa était le 100e voyageur tombé entre ses griffes despotiques. 99 avaient déjà péri et le tyran Mourad aimait les chiffres ronds. Tu pourras passer la nuit à Kalahar, ô homme rusé à nul autre pareil, car Mourad n'a qu'une parole, dit le despote. Mais si tu souhaites quitter la ville et poursuivre ta route, il te faudra résoudre une autre énigme que je te soumettrai ce soir après le souper. Sinon, tu connaîtras la mort comme tous les autres. Le soir même, alors que les lumières de la ville de Kalahar s'éteignaient les unes après les autres et que l'on entendait autour des murailles, dans le silence de la nuit, hurler les chacals affamés, « Ah bah oui, nous sommes au désert !» Goa se présenta de nouveau devant le tyran. Celui-ci le reçut dans ses appartements privés. Il était affalé sur des coussins de fin brocart, avec des broderies d'or, et il fumait voluptueusement son narguilé. Il avait de toute évidence mangé et bu plus que de raison, car il avait le teint rouge, le regard vague, et il émettait à de courts intervalles des bruits, des rots, bruyants et prolongés, à donner la nausée. Sur les sofas de velours disposés le long des murs étaient assis quelques proches courtisans. Mourad fit signe à Goa de s'approcher et de s'installer sur un tabouret en face de lui. Puis il se redressa sur ses coussins, aspira une longue bouffée de son narguilé et suivit les yeux mi-clos les volutes de la fumée. Tout le monde se taisait. « Écoute, Goa aux mille ruses, prononça-t-il, écoute bien la triste histoire de Leïla de Louxor. Ne laisse aucun détail t'échapper, car tu devras, au terme du conte, répondre à une question dont dépendra ta vie. » Cela se passait donc dans le sud profond de notre pays, dans l'antique village au bord du Grand Nil. De Louxor à Assouan, au bout de l'Égypte, tout le monde s'accordait à dire que Leïla était la plus belle fille de la région. Le jour de ses 16 ans, son père, qui était pauvre et ne pouvait la doter, la maria à un joaillier réputé pour sa richesse et aussi pour sa cruauté. Au mot cruauté, le despote Mourad fit une légère pause et un sourire de plaisir illumina son visage. Sur les sofas de velours, les courtisans ébauchèrent aussi de vilains rictus. Et le tyran reprit. Auprès de son mari, Leïla connut, comme on pouvait s'y attendre, une vie confortable mais malheureuse. Enfermée dans la vaste demeure conjugale avec la stricte interdiction d'en sortir, toujours seule, à part quelques courtisanes, et souvent battue. Ses seuls moments de douceur, elle les prenait lors de sa promenade quotidienne, elle-même, seule, comme elle le désirait, dans son jardin. Un jour qu'elle admirait et soignait ses roses, elle croisa le nouveau jardinier. Ce nouveau jardinier était entré dans le jardin parce qu'il ne savait pas que Leïla souhaitait y être seule. Et quand elle croisa le nouveau jardinier, pour Leïla, ce fut un éblouissement. Il était jeune, il était beau, et Leïla sentit pour la première fois de sa vie son cœur s'emballer et ses yeux s'éclairer de la flamme de l'amour. La beauté de Leïla frappa aussi le jardinier, qui évidemment s'éprit d'elle, comme elle de lui, au même instant et avec la même ardeur. Depuis cette minute, toutes les nuits, à peine son époux endormi, il travaillait beaucoup, le joaillier, Leïla trompait la vigilance de l'armée de serviteurs ou de courtisans chargés de la surveiller, se faufilait hors de la maison et revenait, bien sûr, retrouver son amoureux dans le jardin. Hey, il n'y a pas plus ingénieux qu'une femme, mais plus malin et plus fourbe aussi, grinça Mourad entre ses dents. Sur les sofas, les courtisans hochèrent la tête du même air de désapprobation. Ainsi, nuit après nuit, hiver comme été, pendant toute une année, Leïla et le jardinier se retrouvèrent dans la roseraie et y restèrent ensemble jusqu'aux premières lueurs du jour. Quant au mari, il continuait à traiter sa femme comme il l'avait toujours fait, avec dureté et méchanceté. Et l'existence de Leïla était devenue un véritable enfer. Avec l'enfer le jour, mais le doux paradis la nuit. Et il advint un soir où le joaillier s'était montré particulièrement brutal que Leïla décida de s'enfuir et de mettre fin à cette vie insupportable. Elle s'enroula dans son grand voile, dans sa melaya de crépon noir, elle y enfouit totalement son visage et elle se rendit au bord du Nil. Elle s'approcha de l'embarcadère. Le jardinier, pour une fois, l'attendait, sur l'autre rive, là où il habitait, à l'ouest du fleuve, et il fallait donc emprunter un bac pour le rejoindre. Sur le bac, Leïla enfin put respirer. La lune était pleine et reflétait son disque d'argent sur l'eau noire comme jais. Les félouques glissaient silencieusement sur le Nil et les eucalyptus exhalaient un parfum étourdissant. La liberté était au bout de la traversée. Ainsi le pensa-t-elle, croassa le despote Mourad en se frottant les mains. Mais ce n'était pas si simple.
Leïla pleura longtemps dans les bras du jardinier. Elle le supplia de la garder auprès de lui et de s'enfuir avec elle. Il refusa au nom de la raison. Le joaillier était un homme puissant, allégua-t-il. Il aurait tôt fait de les retrouver et, cela est sûr, de les mettre à mort. Il poussa doucement Leïla vers la porte et lui demanda de rentrer chez elle comme si de rien n'était. « Il y aura des jours meilleurs, mon aimé, » lui sussura-t-il à l'oreille. « Allah est grand et ses desseins n'appartiennent qu'à lui. Prends patience. Qui peut savoir ce que l'avenir nous réserve ? Le jardinier referma la porte, éteignit la lumière et alla se coucher. Leïla se retrouva seule dans la nuit de Louxor. « Ô lâcheté des hommes, ô vile humanité !» grogna le tyran Mourad. Les courtisans sur leur sofa de velours émirent à l'unisson un vague grognement. Déçue et désemparée, Leïla se dirigea en titubant vers l'embarcadère. L'heure du dernier bac était passée depuis longtemps. La rive était déserte. Elle aperçut la maisonnette du passeur. Elle frappa de toutes ses forces à la porte. L'homme dormait déjà et lui ouvrit en bougonnant. Leïla l'implora de lui venir en aide et de lui faire traverser le fleuve. Elle lui offrit de l'argent et la totalité des bijoux qu'elle portait, mais il refusa, tant il aimait dormir et répugnait à la tâche. Le passeur de Louxor était plus paresseux que vénal. « Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure », lui lança-t-il en lui claquant la porte au nez. Leïla était transie de peur. « On la comprend », ajouta le tyran Mourad dans un ricanement, car sur la rive ouest du Nil sévissait alors un brigand qui détroussait les voyageurs après les avoir assassinés. On l'appelait « Long Couteau », car il les égorgeait sans autre forme de procès. Tout le monde savait le danger qu'il y avait à s'attarder seul sur cette rive après le coucher du soleil, et Leïla ne l'ignorait pas. Enroulée dans sa mélaïa noire, elle se coucha en boule sur l'embarcadère. De fatigue et d'émotion, elle s'endormit. On aurait pu croire que c'était un ballot de linge oublié par quelques femmes de Louxor. Mais Long Couteau, qui rôdait par là, ne s'y trompa pas. Il aperçut un anneau d'argent qui brillait entre les voiles. C'était le bracelet de pied de la jeune femme qui s'était un peu découverte dans son sommeil. Alors, il s'approcha doucement et poignarda sa victime comme il savait le faire. « Clac, d'un coup sec !» précisa le tyran Mourad en faisant claquer ses doigts. Les courtisans se trémoussèrent sur leur sofa et portèrent leurs mains à leur cou comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Mourad se vautra à nouveau au creux de ses coussins et but d'une traite une grande carafe d'eau parfumée à la fleur d'oranger. L'histoire était terminée. Goa, lui, n'avait pas bougé de son tabouret et attendait la suite sans broncher.
Alors, qu'est-ce que c'est cette suite ? Alors, Goa ou Melruz, dis-moi donc, toi qui sais tout, qui est le coupable de cette histoire ? Quel est celui qui a tué la belle Leïla ? Vous autres, jeta Mourad à l'adresse de ses courtisans, vous pouvez l'aider si vous le souhaitez. Et il éclata d'un rire terrible. « Ha, ha, ha ! C'est le mari ?» risqua un homme. « Par sa cruauté et ses mauvais traitements, il a contraint Leïla à la fuite. C'est lui la cause de sa mort. »« mais non !» s'enhardit un autre. « C'est le jardinier qui a refusé de lui donner asile malgré l'amour qui les liait. Cet amour indéfectible, finalement, ben non, c'est sa faiblesse et sa lâcheté qui sont responsables de la mort de Leïla. Ou plutôt le passeur, s'écria un troisième. À cause de son impardonnable paresse, c'est lui qu'il faut condamner, et lui seul. Bon, pourquoi ces trois hommes seraient-ils coupables de la mort de cette femme ? Dit un barbu au regard cinglant. La responsable de sa mort, c'est Leïla elle-même. C'est elle qui a tissé son destin en choisissant de vivre un amour illicite. « Cette mort, c'est le juste jugement d'Allah » ajouta-t-il en levant vers le ciel un doigt vengeur. Sur les sofas, les courtisans au comble de l'excitation s'animaient. L'histoire de Leïla enflammait les passions. La chambre du tyran Mourad était devenue une volière piaillante et caquetante. Le despote leva la main pour réclamer le silence. Tous se turent immédiatement. « Alors, Goa le fou, Goa le sage, quelle réponse choisis-tu » demanda-t-il en le fixant droit dans les yeux. Sans quitter le regard de Mourad, Goa dit posément « L'assassin !» Un murmure interrogatif accueillit cette réponse. « Oui, l'assassin, Long Couteau, l'assassin lui-même, » précisa Goa. « C'est lui le coupable ?» puisque c'est à lui qu'appartient la main qui a tué. L'assassin, c'est l'assassin. Le sourire sarcastique avait disparu du visage du tyran Mourad, car telle était bien évidemment la bonne réponse. Ce Goa est Satan en personne, songea-t-il. Mieux vaut qu'il quitte Kala au plus vite, car sa redoutable perspicacité pourrait devenir un danger pour mon pouvoir despotique, et même pour moi-même et ma cour. Mourad fit donc reconduire sur le champ, au mur de la citadelle, ce diable de Goa. Les grandes portes de bois s'ouvrirent devant lui et Goa partit sans demander son reste, sans se retourner. Eh bien, nous allons demander à Sonia de nous remettre un petit peu de oud avant de continuer les aventures de Goa qui va bien sûr aller vers le Caire et y poursuivre la fable. D'oud un peu plus rythmé, donc pour reprendre le fil des aventures de Goa. Françoise me dit que dans la bonne logique, Mourad le despote aurait dû tuer Goa. Bah oui, bien sûr, Mourad le despote, les vrais despotes, ils tuent toujours tout le monde et évidemment ils ne s'embarrassent pas de la, comment on dit, de la sagacité du personnage. Mais précisément, nous sommes dans un conte, nous sommes dans un récit légendaire, nous sommes dans un récit qui met en avant la sagacité et la hardiesse d'un certain nombre de personnages. Donc Goa, c'est un héros tout de même, on ne va pas faire mourir le héros au milieu de l'histoire. C'est un peu, qui c'est le chevalier là, c'est comme Zorro. Oui, donc c'est comme Zorro. Si on tue Zorro ou qu'on tue Goa, ben attendez, moi je me retrouve où avec mon histoire? Donc continuons l'histoire de Goa.
Goa arriva enfin aux abords d'El Kaïra. Il aperçut les trois pyramides de Gizeh qu'il rêvait de voir depuis qu'il était petit. Elles ne le déçurent pas tant elles étaient imposantes et parfaites de forme et de proportion. Une merveille d'entre les merveilles du monde, songea-t-il avec ravissement. Il décida de passer la nuit dans le village de Haraneia, d'où il pourrait, en levant simplement la tête, contempler à tout moment ces chères pyramides se découper sur le ciel d'Égypte. Il ne savait pas que ce paisible village lui réservait bien des surprises et des aventures inouïes.
Et là, on a sur le livre la vision de tous les tapis fabriqués au Caire et dans ses environs, les tapis qui sèchent au soleil et qui donnent ces taches de couleur sur le désert autour de la ville.
Le voleur et le manteau. Haraneia était construit sur un bras du Nil. Tout le long de la rive séchaient de grands échevaux de laine aux couleurs ineffables. Cela formait de longues rigoles jusqu'au fleuve qui se teintaient magnifiquement. On aurait dit un tableau vivant roulant au fil de l'eau. Les tapisseries de ce village de tisserands étaient réputées dans le monde entier. De Bagdad à Alep, d'Aman à Tanger et même, assure-t-on, à Paris et à Londres, elles occupaient et occupent encore la place d'honneur dans les salons de riches collectionneurs. Le village était charmant avec ses maisons de boue et en bois, avec ses petits patios, ses jardins et ses champs qui sentaient bon le foule, la fève verte dont les Égyptiens raffolent pour leur petit déjeuner. Les habitants de Haraneia s'avérèrent d'une exquise hospitalité. Ils étaient un peu fantasques, un peu fous, et ils ouvraient grandes leurs portes à l'étranger. C'étaient des artistes. Un tisserand offrit à Goa un dîner où il se délecta de caille grillée, de pain au sésame et d'huile d'olive, de lait, de brebis et de gâteaux aux dattes.
Un vrai mécène, en fait.
Puis il lui prépara un lit en peau de gazelle dans le coin de sa maison où il faisait sécher sa réserve de graines de sésame. « Je te les confie, Goa, garde-les bien, car c'est tout ce que je possède. » C'était la pleine lune, et Goa, avant de s'endormir, s'amusa à suivre le jeu de l'ombre et de la lumière, des rayons de lune sur le tas de sésame. Au milieu de la nuit, notre ami, qui avait l'ouïe fine, fut réveillé par un léger bruit de frottement d'étoffe. Il ouvrit les yeux, en prenant garde à ne pas bouger, et aperçut un homme qui se faufilait à l'intérieur de la maison par la lucarne. L'homme était nu-pied et agile comme un singe. Goa le vit traverser le logis en silence, l'inspectant de fond en comble. À coup sûr, un voleur en quête de butin. L'hôte de Goa était modeste, on l'a dit, et l'homme ne trouva rien à dérober. Goa suivait des yeux les allées et venues du voleur, sans pour autant se lever ni donner l'alarme. C'était un comportement pour le moins inattendu, mais rien chez Goa ne saurait vraiment nous surprendre. Il le laissa même s'approcher de sa couche sans mot dire et fit mine de dormir. L'homme découvrit la réserve de sésame au pied du lit et Goa, les yeux mi-clos, vit son visage s'éclairer. Il avait enfin trouvé son trophée. Il se pencha sur le tas de graines et en saisit une poignée pour s'assurer de leur qualité. Et pendant ce temps, Goa faisait toujours le mort. Puis, le voleur enleva son manteau, l'étendit par terre et entreprit d'y transvaser le tas de sésame. Et lorsqu'il eut terminé sa tâche, et alors seulement, que Goa jaillit de sa couche comme un diable de sa boîte, lui causant une telle frayeur que le voleur s'enfuit à corps perdu à travers champs.
En laissant son manteau.
Et le sésame. Goa déversa alors avec précaution les graines sur le plancher. Il les ôta toutes du manteau jusqu'à la dernière et reconstitua le petit monticule qu'on lui avait confié. Puis, il admira le manteau que le voleur avait abandonné. Il était en fin coton avec de larges manches superbement brodées, un vêtement de prince sans doute dérobé à quelques riches propriétaires de la région. Goa souriait aux anges en rangeant le manteau dans son baluchon. Il sourit encore dans son sommeil lorsque son hôte vint le réveiller au petit matin pour aller voir les rayons du soleil éclairer doucement la grande pyramide de Gizeh.
Ah oui, donc Goa va reprendre son chemin avec dans son sac un petit quelque chose de plus. Il reprend son chemin à travers les champs de foule, à travers les palmeraies, à travers les villages qui sont le long du Nil. Et il remonte, vers El Kaïra, puisque c'est le but de son voyage et pour nous la suite de l'histoire. Alors, comme le lui avait dit le tisserand, au brusque détour d'un champ, il vit s'étendre devant lui un lac bleu turquoise qui brillait, pareil à une pierre précieuse, entre les collines désertiques. À la vue de ce tableau étrange et magnifique, Goa éprouva tout à la fois une joie indicible et un sentiment de crainte qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme un sortilège. On va laisser Goa face à son sortilège. L'histoire qu'il connaît dans le lac ou sur les bords du lac, tout le monde la connaît, je crois, c'est celle de la jarre. La jarre qu'il pêche au lieu de pêcher des poissons. La jarre qui contient évidemment un génie. Et la jarre qui va donc être la clé de son étape suivante, puisqu'il pêche la jarre, il sauve le génie, et que le génie, en récompense, bien sûr, le remet sur le droit chemin du Caire, le droit chemin du Caire qui va représenter la dernière histoire de nos aventures. La capitale aux mille minarets plut à Goa au-delà de toute espérance. Il y aima tout. Et d'ailleurs, là, on a une très jolie illustration aussi d'une ville avec ses minarets. On dirait presque San Gimignano, vous savez, en Toscane, avec ses campaniles. Donc, d'ouest en est de la Méditerranée, voilà, nous sommes dans une superbe ville. Et nous continuons. Depuis les souks jusqu'au café de la corniche des bords du Nil, depuis les palais en marbre jusqu'aux petites ruelles si vivantes des faubourgs avec leurs commerces et leurs commerçants souriants, oui vraiment, le Caire, c'était merveilleux. C'est vrai que Goa aima surtout les habitants, des habitants bruyants, facétieux, bon vivants, des rues où on chantait du matin au soir, des chants, mais aussi des cris, ceux des marchands ambulants, oui. Et Goa parcourait la ville sans se fatiguer, sans s'arrêter. À peine de temps en temps, une gorgée d'eau du porteur d'eau ou de thé glacé ou de jus de réglisse. Goa passa la journée à se promener. La nuit le surprit dans un quartier bourgeois de la cité. À quelques pas de lui s'ouvrait une grande demeure richement éclairée. Les badauds s'attardaient autour de cette porte grande ouverte. Goa se dirigea aussitôt vers elle et apprit que le propriétaire recevait des médecins venus des quatre coins du pays pour tenter de guérir sa fille. Celle-ci avait par mégarde avalé une arête de poisson qui était restée coincée dans sa gorge. Depuis, elle respirait de plus en plus difficilement et risquait de mourir d'étouffement si l'on ne parvenait pas à lui retirer. Jusqu'ici, aucune sommité de la médecine n'avait réussi à le faire. Ce soir-là, le père avait décidé d'ouvrir sa maison à tout médecin susceptible de sauver sa fille. Il avait fait préparer un très bon souper, un souper qui promettait d'être délicieux si l'on en jugeait par les effluves qui s'échappaient des cuisines. Et les médecins pourraient donc consulter et prendre leur part du dîner. Goa avait étudié la médecine des plantes auprès d'un sage marocain. Il se présenta donc à la porte de la demeure. Lorsque le gardien le vit, pauvrement habillé dans sa vieille djellaba, il se dit qu'un homme d'aspect si miteux ne pouvait en aucun cas prétendre à une connaissance médicale. Il lui refusa donc l'entrée et le lui signifia avec brutalité. Goa se mit alors à l'abri d'un porche voisin, il ouvrit son baluchon un peu à l'écart, et il en retira le manteau du voleur de sésame de Haraneya. Il s'en vêtit et se présenta de nouveau au gardien. Celui-ci ne le reconnut même pas. Le tissu était beau, cela suffisait. Le gardien le laissa donc entrer, non sans s'être respectueusement incliné devant lui. Goa s'attabla avec les autres convives. Il fallait bien se restaurer avant d'aller consulter. La jeune malade était allongée dans un coin de la salle, pâle et respirant avec peine. Tout en s'empiffrant de pâté et de viande rôtie, les médecins se concertaient à grand renfort de mots savants. Goa se fit servir de la soupe aux lentilles et se mit à manger en fermant les yeux de plaisir tant elle était chaude et parfumée. Une manche de son manteau trempa dans le potage sans qu'il s'en aperçoive et son voisin le lui fit discrètement remarquer. Au lieu de retirer sa manche, Goa la laissa dans son assiette et dit « Mange, mange ma manche !» « Mange, ma belle, car dans cette demeure, on te manifeste plus de respect et de considération qu'à moi-même. » Autour de la table, les médecins s'arrêtèrent de parler et de boire et la jeune fille tendit l'oreille sur sa couche. Lorsqu'elle entendit les explications que donna Goa de l'accueil qu'on lui avait réservé et que lui avait fait le gardien, elle fut prise d'un tel fou rire qu'elle en cracha violemment l'arête de poisson qui obstruait sa gorge. Ah oui, elle fut guérie, sans même que Goa eût besoin de recourir à la science des plantes ou à toute autre science qu'on lui avait transmise au sud de l'Égypte, au sud du Maroc ou ailleurs. On imagine de combien de bienfaits le père de la jeune fille combla notre ami. Il put poursuivre dès lors son séjour à Al-Kahira en homme riche. Et peut-être que si Sonia voulait, eh bien, nous pourrions écouter à nouveau un petit peu de oud, pourquoi pas la suite de ce qu'on avait écouté tout à l'heure. Avant, bien sûr, je vais vous saluer. Je vais vous laisser en compagnie de Goa pour connaître avec lui d'autres aventures. Il faut bien sûr de la sagacité, mais aussi de la hardiesse, ne l'oubliez pas. Il faut de la culture, bien sûr, pour se sauver la vie. Il faut savoir exploiter la bêtise des autres, mais ça, peut-être qu'on a du mal quelquefois quand ils sont puissants. Et puis, surtout, ben, il va falloir se contenter pendant 3 semaines de rediffusion, parce que je vais aller me cultiver et faire bien d'autres choses dans notre belle capitale, quitter Marseille pour Paris. Et donc, après nos rediffusions, ben, nous nous retrouverons début mars, comme on disait tout à l'heure, pas longtemps avant la journée internationale pour les droits des femmes. Et bien sûr, un petit peu de oud pour le moment. Au revoir, à bientôt. Ah, le oud n'a pas démarré.
Je suis désolée pour le oud, ça a été très promis, mais malheureusement, j'avais fermé la page. Donc, ce sera sans oud.
Prends le générique, il est beau, notre générique.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.